Merci. C'est le privilège du président du Sénat que de pouvoir parler debout. Mais j'essaierai de dire en quelques mots simples ce que j'ai envie de vous dire à l'ouverture de ce beau moment, monsieur le président de la Fondation, cher Pierre Joxe. J'ai tellement de visages amis et familiers à saluer cet après-midi que je suis presque embarrassé. Je veux saluer le président de la Ligue des droits de l'homme, saluer tous ceux qui vont participer à l'instant à ce premier débat, ce premier moment. Je me permettrai de saluer Bertrand Delanoë, avec lequel nombre de liens m'amène aujourd'hui à parler de façon un peu émue devant lui, dans un moment nouveau de son existence, mais que je connaîtrai moi aussi bientôt. Saluer bien sûr Claude Estier, qui fut mon prédécesseur à la tête du groupe socialiste ici au Sénat, et en même temps qui a un parcours tellement riche, Yvette Roudy aussi, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver, et puis vous toutes et vous tous, mes collègues sénatrices, sénateurs, qui sont là présents, pardon à tous ceux que je ne peux citer, monsieur le ministre également. Bref, chers amis, moi je suis venu pour accueillir cet après-midi à la présidence du Sénat, dans ces salons Beaufranc, ce colloque en hommage à Françoise Seligman. Je vais le faire avec un peu de frustration, puisque je serai amené dans quelques minutes à accueillir le Premier ministre, qui est très attendu cet après-midi au Sénat, après être intervenu hier à l'Assemblée nationale. Mais je voulais vraiment pouvoir parler de Françoise Seligman, que j'ai connu moins bien que beaucoup de ceux qui sont ici présents, mais que j'ai tout de même connu. Et pour commencer, je voudrais évoquer ce souvenir que j'ai d'elle, sans oublier cette espèce de contraste assez particulier qui saisissait chacun de ses interlocuteurs s'agissant de Françoise Seligman, parce que c'était à la fois une femme qui apparaissait presque comme fragile, c'était une femme qui n'était pas de grande taille, mais en même temps, elle avait une force en elle qui frappait d'emblée, grande force. Et ce qui m'a toujours frappé, bien entendu, ce sont dans les couloirs de la rue de Solferino que j'ai plutôt croisé Françoise Seligman. Je me souviens aussi de ses comités directeurs, puisqu'à l'époque il s'agissait de comités directeurs, n'est-ce pas, François Bazin, qui était le meilleur observateur de la vie interne du Parti Socialiste, frappé par son regard, qui était un regard qui pouvait vous glacer, mais qui rapidement, au contraire, vous réchauffait. Je crois que cette volonté, cette détermination, Françoise Seligman l'a mise au service de ses convictions. C'était des convictions de gauche. Je salue Catherine Lalumière également, que j'aperçois soudainement. Pardon. Elle le mettait, je disais, au service de convictions de gauche, de convictions laïques et aussi républicaines. Et bien sûr, je suis particulièrement sensible lorsque je regarde son parcours à son engagement dans la résistance, puisque c'est à 22 ans, en 1941, jusqu'à la fin, que Françoise Seligman, 22 ans, est rentrée dans la résistance. Et puis jusqu'à ses derniers jours, elle a fait preuve de cette détermination dont je parlais. Elle est décédée, je crois, le même jour que notre grand homme, que notre grand résistant, Stéphane Hessel, qui partageait avec elle aussi, bien sûr, ses valeurs de gauche. Donc ce 27 février fut un jour particulièrement triste pour chacun d'entre nous. Il y a un autre trait de caractère aussi que j'aimerais rappeler de Françoise, c'était plus sa gaieté. Et au-delà de sa gaieté, les éclats de rire qui souvent émaillaient les discussions, les conversations, les échanges qu'on pouvait avoir avec elle, parce que si elle pouvait se montrer inflexible, voire intransigeante sur un certain nombre de sujets, je pense à la défense des libertés, de la justice, de la vérité, c'était vraiment des causes qui lui tenaient à cœur. Sa générosité et peut-être son empathie naturelle allaient de pair avec cet humour qui était un humour contagieux, et elle pratiquait souvent l'ironie, si bien qu'il fallait décrypter, lorsqu'on apprenait à connaître cette femme, décrypter sa manière de vous parler. Elle était aussi d'une grande modestie, et je le dis en présence de François Bazin, grand journaliste silanais, elle observait avec beaucoup d'amusement l'attirance, je pourrais même dire plus, la fascination de certains de nos amis, de nos camarades à direction des médias et de ceux qui trouvaient plus avantageux de s'exprimer dans les couloirs devant les micros plutôt que de participer à un débat sérieux et approfondi comme ceux, bien sûr, auxquels nous participons régulièrement. Je crois qu'il n'y avait pas chez elle un quelconque mépris ou arrogance vis-à-vis de la presse, mais il y avait un recul qui est absolument nécessaire aujourd'hui si on veut être fidèle à ce à quoi on pense et défendre ses convictions. La jeune résistante, en effet, qui risqua souvent sa vie en combattant le nazisme et ses supplétifs du régime de Vichy, au sein du réseau Combat, participa à la création, et c'est pourquoi elle ne pouvait pas avoir ce regard en direction de la presse, du journal Combat, aux côtés d'Albert Camus. Par la suite, je sais que Pierre Jox va l'évoquer, elle a fondé deux magazines, La Française et Après-demain. Donc c'est une femme qui savait de quoi elle parlait. Et l'attachement passionnel de Françoise à la défense des libertés et des droits de l'homme, son aversion aussi pour le colonialisme qu'elle évoquait régulièrement, cette espèce d'éthique qui était sa caractéristique, doublée d'une exigence de tous les instants pour le respect de la vérité, également cet engagement politique profond, font qu'elle s'est rapidement rapprochée de Pierre Mendès France. Et Pierre Mendès France lui-même a bien détecté ses qualités, puisqu'elle fut secrétaire nationale de l'Union des forces démocratiques en 1958 auprès de lui. La recomposition ensuite des forces de gauche l'incita à rejoindre le Parti socialiste en 1974. Elle y a exercé de nombreuses responsabilités au secrétariat national de 1983 à 1992. Et elle est rentrée au Sénat. Claude Estier pourrait en témoigner à la suite du décès de Robert Pontillon. Comme sénatrice des Hauts-de-Seine, elle était suppléante de Robert Pontillon. Elle s'est bien sûr inscrite au groupe socialiste et Claude, dans un instant, évoquera son passage au sein de la Haute Assemblée. Elle a d'ailleurs regretté que ce passage soit trop court, puisqu'elle a dû céder son siège au bout de 3 ans seulement. 3 ans seulement. 3 ans, c'est court, mais 3 ans, on peut aussi faire des choses. Et donc, je sais que Françoise avait ce regret en elle et j'ai eu l'occasion de l'évoquer. Si, bien sûr, donc, cet engagement, cette action politique a tenu une grande place dans la vie de Françoise Seligman, elle n'a pas été, je crois, l'alpha et l'oméga de son engagement contre les injustices. Elle n'a cessé de prendre des initiatives dans tous les domaines, de se dépenser personnellement avec, je le redis, la générosité, l'humanisme, l'empathie qui l'a caractérisée pour de beaux combats, des combats contre le racisme et contre l'exclusion. Depuis 2004, le prix Seligman contre le racisme, auquel est étroitement associé le recteur de l'Académie de Paris, s'inscrit donc pleinement dans cette démarche, tout comme la création de la Fondation Seligman, qui fut déclarée d'utilité publique en 2006. La Fondation, vous le savez, a pour but, je cite, de combattre les sources du racisme et du communautarisme, les fondamentalismes religieux et les relents de colonialisme. Et c'est donc avec constance que la Fondation œuvre pour la victoire de la raison et de la tolérance et qu'elle s'attache, là aussi je cite, à promouvoir le rapprochement entre les citoyens et résidents étrangers de toutes origines rassemblés sur le sol français. Alors aux yeux de Françoise Seligman, l'éducation, la formation, la culture, l'information devaient être au service de la citoyenneté, ce qui a conduit à la Fondation à soutenir les projets construits par les jeunes dans les écoles, les collèges et lycées, en particulier dans les quartiers que l'on appelle sensibles de la région parisienne. Françoise Seligman était habitée par le goût du beau et elle considérait que l'initiation à la citoyenneté devait aller de pair avec le soutien à des activités artistiques, notamment musicales, et nous venons, je crois, à l'instant d'en avoir une superbe démonstration. Pour le couple aussi, car il était important que formaient Françoise et son mari, l'art était aussi une source d'élévation de l'âme. D'où cette volonté de la Fondation d'en faire partager les richesses aux jeunes des milieux défavorisés. Cela explique bien sûr le geste d'une immense générosité dont Françoise a fait bénéficier le public en faisant don de 160 œuvres au musée Carnavalet. C'est un geste exceptionnel qui, à lui tout seul, résume l'altruisme, la grandeur aussi d'une femme dont le principe d'action était le refus des injustices. C'est pourquoi j'étais particulièrement heureux de pouvoir dire quelques mots sur elle avant que vous ne vous exprimiez et parler non seulement de Françoise Seligman, mais aussi des valeurs qu'elle a toujours voulu défendre. Merci à vous.
Je crois que nous pouvons maintenant ouvrir la première table ronde qui est consacrée à Françoise, femme engagée de la résistance à l'engagement politique. Nous avons une heure pour cela. Il y a cinq intervenants. Il serait peut-être bien que nous puissions passer un peu la parole à la salle après. Donc commençons sans attendre et je passe la parole à Pierre Joxe.